Chapitre 49. Aux côtés de Lucie, l'individu ôta enfin ses lunettes et les rangea dans la boîte à gants avec le revolver. « Je ne vous veux pas de mal. Excusez mes manières un peu abruptes, mais j'avais besoin que vous me suiviez sans faire de problème. » Lucie sentit la pression quitter brusquement son corps. Tout en prenant garde à la route, elle regarda son interlocuteur. Ses iris étaient profondément bleus, protégés par d'épais sourcils gris.
« Qu'êtes-vous ?»«
Roulez. Nous discuterons plus tard. » Des noms de villes défilèrent. Terrebonne, Mascouche, Rodon. Les zones qu'ils traversaient étaient de plus en plus dépeuplées. Ils prirent une route aux interminables lignes droites, cernées de forêts d'érables et de résineux à perte de vue. Ils ne croisèrent que quelques rares camions et voitures. La nuit tomba. De temps à autre, perçaient de lointains points lumineux. Des embarcations qui devaient sillonner des fleuves, des lacs, des rivières. Ils avaient parcouru une centaine de kilomètres quand l'individu lui demanda de bifurquer dans un chemin. Les phares éclairaient les gros troncs noirs dont la hauteur donnait le vertige. Lucie se sentait au bord du gouffre. Elle n'avait aperçu que deux ou trois habitations cette dernière demi-heure. Un chalet sortit de l'obscurité. Lorsque la flic posa pied à terre, fébrile, elle entendit le mugissement furieux d'un torrent. Le souffle frais du vent lui agita les cheveux. L'homme s'attarda quelques secondes, les yeux braqués vers les ténèbres. Elles étaient ici plus profondes qu'ailleurs. Il déverrouilla la porte du chalet. Lucie entra. L'intérieur de l'habitation sentait le gibier cuit. Un poêle à deux ponts trônait au fond de la pièce devant une large baie vitrée qui ouvrait sur les scintillements légers de la lune sur la surface d'un grand lac. Dans un coin, des cannes à pêche, un vieil arc, des scies de bûcherons, ainsi que des moules en bois aux côtés de personnages en sucre d'érable. En soufflant, le Canadien posa son flingue sur la table et ôta sa casquette, dévoilant une poignée de cheveux poivre et sel. Il paraissait encore plus vieux et maigre maintenant qu'il avait retiré sa veste. Un homme fatigué, usé, semblait-il.
« Il n'y a qu'ici où nous pourrons discuter tranquillement, en sécurité. »
Il avait abandonné son accent américain, parlant avec celui du Québec. Lucie comprit sur le champ. Elle connaissait cette voix.
« Vous êtes l'interlocuteur que j'ai eu au téléphone en appelant sur le portable de Vlad Spielmann. »«
Oui. Je m'appelle Philippe Rottenberg. » À nouveau l'accent américain. Un véritable caméléon sonore.
« Comment ?»«
Je vous ai retrouvé. » »«
J'ai une source au placé. » Extrêmement fiable à la Sûreté du Québec. Il m'a immédiatement contacté lorsqu'il a eu vent de votre demande de commission rogatoire. Une jeune flic française qui voulait faire des fouilles dans les archives nationales de Montréal. J'ai tout de suite fait le rapprochement avec le fameux coup de fil quelques jours plus tôt. Je connaissais votre heure d'arrivée, votre hôtel. Je vous file depuis hier. J'ai compris que vous étiez fiable. »
Rottenberg constata que Lucie était au bord du malaise. Il s'approcha d'elle et la conduisit vers un canapé en la soutenant.
« De l'eau, s'il vous plaît, » réclama-t-elle. « Je n'ai pas bu ni beaucoup mangé, et la journée n'a pas vraiment été reposante. « Oh oui, excusez-moi, bien sûr. »
Il se précipita vers la cuisine et revint avec de la charcuterie, du pain, de l'eau, des bières. Lucie but plusieurs verres et avala des tranches de saucisson avant de retrouver un peu de lucidité. Rottenberg s'était décapsulé une canette.
Il la regardait avec attention, les mains entourant sa petite bouteille. « Tout d'abord, vous devez savoir qui je suis. J'ai longtemps travaillé dans un illustre cabinet de défense des libertés civiles à Washington, auprès de Joseph Raut, un très très grand avocat. Ce nom vous dit quelque chose ?» Washington, là où avait vécu le cinéaste Jacques Lacombe. Absolument rien. Alors, vous en savez moins que je ne le pensais. Je suis ici au Canada pour obtenir des réponses, essayer de piger pourquoi on tue pour récupérer un film vieux de plus de 50 ans. Il prit une large inspiration. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que tout est dans le film, Lucienne Belle. Parce que, à l'intérieur, se cache la preuve de l'existence d'un programme secret de la CIA, qui s'est servi de malheureux guinea pigs pour mener à bien ses expérimentations. Ce programme fantôme, dont tout le monde ignore à ce jour l'existence, a été développé en parallèle au projet MK Ultra. Lucie se passa une main dans les cheveux, les lissant vers l'arrière. MK Ultra. Elle avait entrevu ce terme dans la bibliothèque de Spielmann, au milieu des livres sur l'espionnage. Désolé, mais je rame complètement là. Dans ce cas, je vais avoir beaucoup de choses à vous raconter. Philippe Rothenberg se dirigea vers le poêle dans lequel il enfourna des bûches. Même en juillet, les nuits sont fraîches dans les forêts boréales. Il cassa du petit bois, glissa un zip et l'embrasa avec une allumette. Il observa quelques secondes le feu prendre. Lucie avait anormalement froid et se frictionnait les avant-bras. 1977. J'avais à peine 25 ans. Cabinet Raut, Washington. Deux personnes, un père et son fils, débarquent dans le bureau de Joseph. Le fils, David Lavoie, tient un article du New York Times. Et le père semble perturbé, absent. David Lavoie tend le papier qui parle du projet MKUltra. Pour votre information, le New York Times avait lancé le premier pavé dans la mare 2 ans plus tôt, en 1975, révélant que la CIA avait conduit dans les années 50-60 des expériences de contrôle mental sur des citoyens américains, dont la plupart à leur insu. Des commissions d'enquête furent lancées et l'on révéla officiellement au peuple américain l'existence de ce projet top secret. Il donna un coup de menton en direction d'une large bibliothèque. Tout est là-bas. Des milliers et des milliers de pages dans les archives accessibles à n'importe quel citoyen. L'ensemble est depuis longtemps public et consultable. Il n'y a plus rien de secret dans ce que je vous raconte. Philippe Rothenberg partit fouiller dans ses documents. Il en sortit rapidement le New York Times de l'époque et le tendit à Lucie. Regardez à la première page. Lucie ouvrit le journal. Un très long article faisait la une. Des termes étaient soulignés au feutre. Dr. D. Ewan Sanders, Society for Investigation of Human Ecology. MKUltra Project. Ce jour-là, Joseph Raut demande à cet humble monsieur Lavoie en quoi son cabinet d'avocat peut l'aider. Et là, le fils Lavoie répond presque naturellement qu'il souhaite attaquer la CIA. Rien que ça. Pourquoi ? Demande Joseph. Monsieur Lavoie désigne son père et annonce froidement « Pour destruction mentale et lavage de cerveau de la centaine de patients adultes de l'Allan Memorial Institute de l'Université Barley à Montréal, dans les années 50. »
Derrière lui, le feu se déployait. Le petit bois craquait bruyamment. Au milieu de nulle part, au cœur de ce Québec sauvage et inconnu, Lucie se sentait mal à l'aise. Elle prit finalement une bière et la décapsula. Il fallait absolument que le nœud dans son ventre se dénoue. « Montréal, encore et toujours, » dit-elle. « Oui, Montréal. Pourtant, cet article du Times ne parle pas de Montréal ou du Canada. Il explique simplement que dans les années 50, la CIA avait fondé de nombreuses organisations écrans pour développer ses recherches sur le lavage de cerveau, dont la SIHE, la Society for the Investigation of Human Ecology. Rien de bien extraordinaire là-dedans. Juste une révélation de plus sur le projet MK Ultra. Comme nous y avait habitué le New York Times depuis des mois. Mais regardez-la, cette identité soulignée. Docteur Ewen Sanders, directeur de recherche de la SIHE. Ewen Sanders, oui. Or, au dire de M. Lavoie, un certain Ewen Sanders était quelques années plus tôt le psychiatre en chef responsable du Memorial Institute de Montréal. L'endroit où le père de David Lavoie, l'être amorphe qui se tenait en face de nous dans le cabinet, était entré pour soigner une simple dépression et d'où, de longues années plus tard, il était ressorti avec le cerveau entièrement grillé. Je me souviendrai jusqu'à la fin de mes jours de cette phrase qu'il avait réussi à prononcer ce jour-là. « Sanders killed us inside. »« Sanders nous a tués de l'intérieur. » Lucie reposa le journal sur la table. Elle pensait à ce que lui avait laissé entendre l'archiviste. Des expériences sur les êtres humains menées dans les instituts psychiatriques canadiens. Donc, ce projet MK Ultra avait des embranchements secrets au Canada. Exactement. Malgré les enquêtes de 1975, personne ne savait que l'invasion américaine du territoire de l'esprit avait atteint le Québec. Avec son article du Times, et par le plus grand des hasards, David Lavoie avait mis le doigt sur un élément majeur qui incriminait encore la CIA au plus haut degré. Et vous l'avez fait? Vous avez attaqué la CIA? Rothenberg, d'un signe, invita Lucie à le rejoindre devant son ordinateur, posé sur un bureau proche de la bibliothèque. Il parcourut des dossiers informatiques. L'un d'eux portait le nom de Spillman's Discovers. Il cliqua sur l'autre répertoire intitulé Barley Brainwashing et pointa la souris sur un fichier PowerPoint. Dessous s'affichait un fichier à vie. Autrement dit, une vidéo, qui s'intitulait « Brainwash 01.avi ». Lavage de cerveau 01.avi. Neuf patients de Sanders, soutenus par leur famille, ont porté plainte à la suite de Lavoie. Les autres patients de Barley étaient soit décédés, soit traumatisés, soit incapables de se rappeler les traitements subis. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'est primordial pour la suite. En 1973, la CIA, informée que des journalistes mettaient le nez dans ses affaires, avait fait disparaître tous les fichiers concernant le projet MK Ultra. Mais la CIA est avant tout une énorme administration dont le siège est à Washington. Joseph Raud était persuadé
qu'il restait forcément des traces d'un si important projet qui s'était étalé sur plus de 25 ans et avait mis en cause des dizaines de dirigeants, des milliers d'employés. Sous l'égide de la commission Rockefeller, nous avons été autorisés à accéder aux documents ou autres matériels relatifs aux recherches sur le contrôle de l'esprit. Nous avons engagé en freelance Frank Maclay, un ex-agent de la CIA, pour faire les recherches. Après plusieurs semaines d'investigation, il nous confirma que la majeure partie des fichiers avait été détruite par deux dirigeants. Samuel Nils, le directeur de la CIA, et Michael Brown, un proche de Nils. Mais, par son acharnement, Maclay dénichera au RRC, le Retired Record Center de l'agence, les archives si vous voulez, cette énorme caisse de dossiers relatifs à MK Ultra. Des caisses perdues dans le labyrinthe administratif. Plus de 16 000 pages de documents où les noms avaient été noircis, mais qui racontaient en détail comment 10 millions de dollars avaient été dépensés pour MKUltra à travers 144 universités aux États-Unis ou au Canada, 12 hôpitaux, 15 compagnies privées, dont celle de Sanders, et 3 institutions pénales. Il cliqua sur le fichier PowerPoint. Dans ses archives, nous avons récupéré des clichés, ainsi qu'un film que j'ai numérisé et qui se trouve dans ce répertoire. Voici quelques-uns de ces clichés pris par Sanders lui-même lors de ses expériences à l'Institut Barley, suppose-t-on. Des images défilèrent. On y voyait des patients en pyjama sanglés sur des brancards, alignés les uns derrière les autres dans d'interminables couloirs. Les mêmes patients, des casques cadenassés sur la tête, assis à des tables devant de gros magnétophones. Les visages étaient transis, amorphes. Des poches noires se dessinaient sous les yeux hagards. Lucie n'eut pas de mal à imaginer l'atmosphère de terreur qui devait régner à l'hôpital psychiatrique Barley de Montréal. Voici les malheureuses victimes de Sanders. Ce psychiatre de formation, très brillant, a toujours eu la volonté de guérir la maladie psychique sans jamais vraiment y parvenir. Cela le rendait dingue. C'est totalement par hasard qu'un jour, il se rendit compte que la répétition intensive d'une bande enregistrée où les patients étaient confrontés à leur propre séance de thérapie semblait avoir un effet bénéfique sur leur état. Dès lors, cela allait être l'escalade dans l'horreur. Au départ, Sanders contraignit les patients à mettre des casques 3 ou 4 heures d'affilée, 7 jours sur 7. Mais, face à la rébellion et à l'exaspération, il fabriqua des casques de contention impossibles à enlever. Alors, les patients cassèrent les magnétophones, mais il trouva la parade en plaçant les engins derrière des grilles. Les patients arrachèrent les câbles. Alors, il y eut les sangles pour les en empêcher. Sanders finit par les droguer au LSD. Une drogue nouvelle et dévastatrice dont on ignorait encore l'existence quelques années plus tôt. Pour le psychiatre, le LSD était un miracle. Non seulement les patients restaient calmes, mais surtout leur conscience ne faisait plus obstacle. Car les paroles, la répétition diffusée par les haut-parleurs du casque, venaient se loger directement dans leur cerveau. Le LSD. Judith Sagnol, la présence d'un médecin dans les vieux entrepôts, se pouvait-il
que ce fut Sanders. Ce docteur avait-il côtoyé la combe?
Les deux hommes avaient-ils travaillé ensemble pour MK Ultra?
Les questions s'accumulaient sur les lèvres de Lucie. Et les réponses allaient arriver de la bouche de Rothenberg. Elle en était certaine. Sur l'écran, les images se succédaient lentement. Les casques sur les oreilles des patients se perfectionnaient, les files d'attente sur les brancards s'allongeaient, les visages dépérissaient.
Comme vous le voyez, le psychiatre Sanders a équipé les chambres de haut-parleurs qui, sans cesse, diffusaient les mêmes phrases. Ces chambres, il les appelait les chambres dormantes. Ces lignes de brancards représentent l'attente pour la salle des électrochocs. Les patients les subirent 3 fois par jour, durant des programmes de 7 à 8 semaines. 3 fois par jour, mademoiselle. Des milliers de volts dans l'organisme. Imaginez-vous seulement les dégâts que cela pouvait occasionner aux nerfs, au cœur, au cerveau.
J'imagine parfaitement, oui.
Sanders voulait littéralement laver le cerveau de sa maladie. Aucun membre de son personnel dévoué n'osa contester ses ordres de peur de perdre sa place. Sanders était un être froid, autoritaire, dépourvu de compassion.
Vous êtes en train de me dire que personne dans son entourage n'a jamais parlé? On le laissait faire?
Non seulement on le laissait faire, mais on participait. On obéissait, tout simplement.